Il est 8h.
Trois motifs impérieux, le déplacement pour un motif sanitaire, le déplacement pour un motif professionnel, le déplacement pour un motif familial, dans les trois cas évidemment, avec les pièces justificatifs.
Ça se passe ce matin à Roissy, où nous sommes en direct dans une seconde. Contrôle des attestations et justificatifs par les compagnies, la police aux frontières. Application ferme des nouvelles restrictions de déplacement à l'étranger. Des familles perdent un proche sans avoir le temps de lui dire au revoir. Quelle est la réalité des droits de visite à l'hôpital au temps du Covid? C'est le dossier d'Europe 1 ce matin. Dans ce journal, Donald Trump, qui, depuis la Floride, ne lâche ni ses amis du Parti républicain, ni ses clubs de golf. Ses avocats le lâchent en revanche à 8 jours du procès en destitution. Et puis Basile Boli, icône de l'Olympique de Marseille, peut-être le seul capable de réconcilier direction et supporters. Il va jouer les médiateurs, c'est une information Europe 1.
Juste après ce journal, les nouvelles restrictions de déplacement donc et les contrôles qui vont avec pour tenter d'endiguer la propagation du virus. La coordination européenne sur la route, le rail et dans les airs. Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des transports, répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Que reste-t-il de l'espace Schengen ce matin? Cette zone de libre circulation, sans passeport et surtout sans contrôle. Pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, il faut avoir une raison impérieuse pour passer des frontières que l'on croyait disparues depuis 1995.
Et c'est le cas à l'aéroport de Roissy où vous êtes en direct pour Europe 1. Jean-Gabriel Bourgeois, bonjour.
Bonjour.
Annoncé vendredi soir, mise en place dimanche et contrôlée à partir d'aujourd'hui, les nouvelles restrictions de déplacement n'auront pas tardé à être concrétisées.
Oui, et il faut venir encore un peu plus tôt à l'aéroport, hein. C'est le conseil qu'on peut donner ce matin, car les contrôles renforcés mettent plusieurs minutes le temps pour la police aux frontières de vérifier le motif impérieux du voyageur ainsi que les justificatifs. Marguerite va enterrer son père au Cameroun.
Ça s'est bien passé, ils ont tout vérifié, mes papiers.
Ça veut dire que vous avez une attestation, c'est ça?
Oui, j'ai tout, attestation, tout ce qu'il fallait. Voici le certificat de décès, tout est là.
Elle a coché motif familial impérieux sur son attestation. Autre raison valable pour voyager, un déplacement professionnel ne pouvant être différé, une urgence médicale vitale et le retour dans son pays de résidence. Les contrôles se font en collaboration avec les compagnies aériennes, explique Julien Gentil, le directeur de la police aux frontières de Roissy.
On a mis des dispositifs en renfort auprès des compagnies, en fait, sur les comptoirs d'embarquement. D'une part pour assister les compagnies si elles ont des doutes sur les pièces ou les dossiers qui leur sont présentés. Et d'autre part, pour éviter éventuellement les incidents s'il y avait des passagers qui étaient mécontents en fait, d'être non embarqués.
Car le risque est réel, précise-t-il, la personne qui ne remplira pas les conditions pour partir ne partira pas.
En direct de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, Jean-Gabriel Bourgeois pour Europe 1.
Une petite bonne nouvelle ce matin, on les prend comme elles viennent. Le labo AstraZeneca va livrer un peu plus et un peu plus tôt que ce que l'on craignait. 9 millions de doses supplémentaires de son vaccin à l'échelle de toute l'Union. Mais la présidente de la Commission européenne reconnaît que février-mars sera une phase difficile pour l'approvisionnement en vaccins.
Dans les hôpitaux, on reste sur ce plateau montant décrit par Olivier Véran. 27 500 patients Covid, dont 3150 en réanimation.
Des malades de mieux en mieux soignés à mesure que l'on apprend à connaître cette maladie, mais des personnes souvent confrontées à la solitude, faute de recevoir la visite de leurs proches.
Bonjour Jean-Sébastien Soldaini.
Bonjour.
Nous avions entendu ici même le témoignage de Stéphanie Bataille sur l'impossibilité de voir son père en fin de vie. Vous avez enquêté pour Europe 1, Jean-Sébastien, cette situation est régulièrement rencontrée par les familles des patients.
Et c'est visiblement un moment qui affecte tout le monde, famille et médecins. Cet instant où la visite est refusée, c'est dans ce cas que se trouve Valérie. Sa maman de 73 ans est en unité Covid à Montfermeil, mais les soignants lui disent que son état n'est pas assez grave pour la laisser rentrer.
Je ne veux absolument pas la voir dans un lit de mort. Voilà, donc je ferai tout pour la voir avant, bien avant. Je me suis vue prendre une blouse blanche, me pointer à l'hôpital et essayer de trouver la chambre, comme si j'étais du personnel hospitalier. C'est inconcevable pour moi de me dire que dans cette épreuve, on doit laisser quelqu'un tout seul.
On entend clairement cette détresse, Jean-Sébastien, dans ce témoignage. Évidemment, les médecins n'y sont pas insensibles.
Oui, imaginez-vous en train de barrer la porte d'une chambre à quelqu'un qui veut voir son papa souffrant. Pas facile, voilà comment Mathieu Oberlin, médecin au nouvel hôpital civil de Strasbourg, vit ses annonces à répétition.
Ça fait partie des choses les plus dures à vivre. On a aussi des sentiments et des émotions et on n'est pas quand même obtus et on n'est pas des murs froids à appliquer strictement une règle.
La majorité des familles comprend, dit-il. Il aimerait faire plus, mais comme pour tous ses collègues, il met en balance les bénéfices d'une visite face aux risques que cela comporte.
On sait que le facteur psychologique joue beaucoup dans la guérison des maladies. Psychologique, l'entourage, l'accompagnement. Donc inévitablement, on se dit, limiter des visites peut avoir un effet délétère. Mais le risque d'infection, de propagation de l'infection aux patients ou aux soignants est plus important que le risque, malheureusement, qu'il y a à ce que les malades soient isolés.
Jean-Sébastien, quelle est clairement la règle? Car on le sait, il y a aussi des familles qui font un dernier adieu aux personnes en fin de vie.
Eh bien, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Chaque établissement est souverain. La majorité des hôpitaux que j'ai contactés appliquent le même régime. Pas de visite s'il n'y a pas de risque de mort imminente. Si l'état du patient se dégrade, ils laissent entrer un visiteur par jour et par patient. Ce peut être le conjoint, puis le lendemain un enfant. C'est ce qui se fait à Paris. À Toulouse et à Grenoble, ça va un peu plus loin. Une négociation se fait entre famille et soignants. Le nombre de visiteurs peut être adapté. Les règles à observer aussi, ça va du simple le respect des gestes barrières, port du masque, gel hydroalcoolique, jusqu'à des mesures plus protectrices comme le port d'une blouse, voire d'une surblouse. C'est du cas par cas, me dit-on. Enfin, il y a une ville où c'est très strict. Marseille, interdiction totale de voir un patient mourant du Covid s'il est encore positif et contagieux. Les adieux se font par l'intermédiaire d'une tablette, un appel vidéo. Une rencontre reste toutefois possible si le malade est redevenu négatif au coronavirus.
Merci Jean-Sébastien Soldaini, ce dossier européen que vous signez avec Zoé Pallier et Arthur Mbaché.
Deux consultations aujourd'hui, l'une rapide, syndicat Premier ministre pour discuter renforcement du télétravail, et l'autre qui va durer 3 mois, diffusée en direct pour s'attaquer aux 7 péchés capitaux de la police, l'expression est de Gérald Darmanin. Formation, encadrement ou encore la police des polices sont au menu de ce Beauvau de la sécurité.
Un nouveau procès pour terrorisme à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris. 3 hommes sont accusés d'avoir eu un projet d'attentat en décembre 2016.
Et ce qui est très marquant dans cette affaire, c'est que c'est un infiltré, un agent de la DGSI qui a permis de déjouer ce plan. Chloé Triomphe.
On veut 4 calaches avec 4 chargeurs pour chacune des armes et des munitions. C'est cet échange intercepté sur la messagerie cryptée Telegram par un agent de la direction de la sécurité intérieure qui a permis d'éviter un possible attentat. Le policier infiltré au cœur des réseaux djihadistes avait pour nom de code Ulysse et avait fait croire à ses interlocuteurs qu'il pourrait leur fournir le matériel. Parmi ces derniers, un Français parti en Syrie en 2014 tombe dans le panneau et 3 mois après leurs premiers échanges sur la messagerie propose un rendez-vous et une remise d'espèces dans la fente d'une tombe du cimetière du Montparnasse à Paris. Les armes déposées en échange de la transaction sont placées par les policiers dans la forêt de Montmorency, mais l'attente dure plusieurs mois pour les enquêteurs, qui devront patienter jusqu'à ce que des contacts soient interceptés entre la Syrie et des personnes sur le sol français susceptibles de passer à l'acte. Les cibles désignées, les Champs-Élysées ou le 36 quai des Orfèvres, siège de la police judiciaire à l'époque. Finalement, 3 hommes seront interpellés. Quant aux policiers infiltrés, il devrait témoigner par visioconférence et visage caché durant le procès pour protéger son identité.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Ce coup d'état militaire en Birmanie il y a quelques heures, la prix Nobel de la paix devenue première ministre Aung San Suu Kyi a été arrêtée. Elle appelle la population à ne pas accepter ce putsch. Les militaires ont pris le contrôle de l'aéroport et de la mairie de Rangoon, ex-capitale. Ils ont décrété l'état d'urgence pour 1 an, dénonçant des fraudes aux dernières législatives. Ils promettent de nouvelles élections. Les banques de tout le pays sont fermées après de grosses difficultés sur le réseau internet du pays.
Vous restez bien avec nous dans un tout petit instant. Donald Trump en Floride, mais les mains toujours dans la tambouille politique.
Et puis l'OM qui appelle à la rescousse l'homme qu'il avait porté sur le toit de l'Europe. Basile Boli.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 8h10, la suite du journal, François Geffrier.
Après 10 jours d'une sorte de présidence normale aux États-Unis, la frénésie des tweets a laissé la place à de tranquilles points presse de l'équipe de Joe Biden. On retourne prendre des nouvelles de son prédécesseur.
Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour, bonjour à tous.
Donald Trump n'est pas décidé à partir en retraite.
Oui, sa résidence de Mar-a-Lago lui sert de nouveau QG. Nous reviendrons sous une forme ou une autre, c'est ce que Donald Trump avait déclaré le jour de son départ. Et depuis, même s'il joue régulièrement au golf, il a les yeux rivés sur les prochaines élections. D'abord celle de mi-mandat l'an prochain, en 2022, afin de reprendre le contrôle de la Chambre des représentants. Objectif affiché lors de la visite en Floride jeudi dernier du leader républicain de la Chambre, Kevin McCarthy. Donald Trump espère également jouer les faiseurs de roi. Il a officiellement soutenu son ancienne porte-parole, Sarah Sanders, candidate au poste de gouverneur de l'Arkansas. Loin de Washington, l'ancien président garde donc toute son emprise sur le parti républicain, ce dont se méfie le gouverneur Asa Hutchinson, invité hier de la chaîne ABC.
Le président Trump a contribué à la construction du parti au cours des quatre dernières années. J'espère qu'il ne le détruira pas dans les quatre prochaines.
Mais Donald Trump a également d'autres préoccupations. Son procès en destitution débutera la semaine prochaine au Sénat. Ce week-end, 5 de ses avocats ont jeté l'éponge à cause de désaccords sur la stratégie de défense. Selon plusieurs sources, l'ancien président insistait pour que son équipe se concentre non pas sur la légalité du procès, mais encore et toujours sur le prétendu vol de l'élection de novembre.
Alexis Guilleux, en ligne de New York pour Europe 1. En football, c'est une semaine délicate qui démarre pour l'Olympique de Marseille. Deux jours après les incidents au siège du club, une centaine de supporters en colère qui ont vandalisé des bâtiments, menacé des joueurs, 14 personnes toujours en garde à vue hier soir.
Bonjour Jean-François Pérez.
Bonjour.
Le chef du service des sports d'Europe 1. Il va falloir se remobiliser très vite avec deux matchs au programme et une sérénité à retrouver.
Oui, au-delà des résultats sportifs en chute libre, c'est le lien avec les supporters qui inquiète les dirigeants. Une digue symbolique a cédé, l'institution a été visée et la préfecture de police n'exclut pas de prononcer la dissolution de certaines associations de supporters. Avant d'en arriver à cette extrémité, le club convoque l'une de ses légendes, Basile Boli, ambassadeur de l'OM. Il va engager, selon nos informations, une médiation pour renouer le fil du dialogue. Sa tâche s'annonce difficile, le fossé est profond entre les deux parties. Le président Jacques-Henri Hérault cristallise la colère des supporters avec une communication jugée méprisante envers les Marseillais. Et les joueurs dans tout ça? Marqués par le coup de force de samedi, ils doivent enchaîner deux matchs cette semaine, à Lens mercredi et face au Paris Saint-Germain dimanche. Auront-ils la force ou l'envie de sauver une saison déjà bien compromise? De la réponse à cette question dépend le climat autour de ce club décidément allergique à la stabilité.
Jean-François Pérez, l'autre info signée Europe 1, vous l'avez entendu à 7h30, c'est le président du Real Madrid, Florentino Pérez, qui parle sur notre antenne d'un immense gâchis à propos de l'absence de Karim Benzema en équipe de France. Interview à retrouver sur Europe1.fr.
Et vous citiez cette information Europe 1, François Geffrier. Basile Boli à la rescousse à Marseille, du côté de la commanderie, autre figure mythique de l'Olympique de Marseille. Je voulais vous la faire entendre. Bernard Tapie, emblématique Bernard Tapie, la voix abîmée par la maladie, vous le savez. Bernard Tapie a tristé après avoir vu ces images de la commanderie. Il s'exprimait sur France 2 hier soir.
J'étais abasourdi et fondamentalement triste. Parce que, pour dire la vérité, les supporters de l'OM, c'est l'âme de l'OM.
L'ancien président de l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie. Merci François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1. Il est 8h14.
Europe 1, Mathieu Béliard.
L'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu et bonjour à tous. Alors c'est l'une, si ce n'est la mesure forte désormais en vigueur, la fermeture des frontières hors pays UE. Finalement, le virus avait bel et bien un passeport. Alors pourquoi avoir tant tardé? Notre invité, c'est le ministre en charge des transports, Jean-Baptiste Djebbari. A tout de suite.
Il est 8h14.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des transports.
Bienvenue à vous et bonjour Jean-Baptiste Djebbari.
Bonjour à vous deux.
Fermeture des frontières hors pays UE finalement, le virus a bel et bien un passeport, contrairement à ce que vous avez répété pendant un an.
Le virus, il n'a pas de passeport, ou alors le passeport est international. Le virus, par ailleurs, il évolue. Vous savez que les variants présentent un nouveau danger parce qu'ils sont plus contaminants. Et depuis le 17 mars dernier, ça fait quasiment un an maintenant, nous contrôlons les frontières, notamment depuis les pays hors espace Schengen, de façon stricte. Juste un chiffre, depuis mars dernier, on a environ 5 fois moins de passagers que nous n'en avions l'année d'avant.
Mais attendez, aujourd'hui, vous reconnaissez qu'il est urgent de fermer les frontières. Hier encore, Jean-Baptiste Djebbari, vous dénonciez le nationalisme sanitaire. Ce sont vos mots de Marine Le Pen et de la droite qui réclamaient ces mesures-là depuis un an.
Écoutez, moi je constate que de l'opposition, notamment de Marine Le Pen, on a soit un torrent de critique, soit de l'auto-flagellation en permanence. Et par ailleurs, je crois qu'on n'a pas de leçon de cohérence politique à recevoir de Marine Le Pen qui a été contre l'Europe, contre l'euro, contre l'espace Schengen. Je crois savoir qu'elle a très, très récemment changé d'avis sur ce sujet-là. Ce qui est sûr, je le redis, c'est que depuis mars dernier, nous avons posé un cadre strict de contrôle des flux de circulation aux frontières de l'espace européen et que nous avons encore renforcé ce cadre avec ces restrictions et les motifs impérieux pour s'y rendre.
On va écouter cet extrait. C'était le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur Europe 1 en février 2020.
Nous avons posé la question au Conseil scientifique des frontières, comme nous avons posé toutes les autres questions. La réponse est scientifique, c'est scientifiquement, ça n'a pas d'intérêt.
Ça n'a pas d'intérêt, scientifiquement, février 2020. Est-ce que c'est de l'idéologie sans frontiériste et européiste de votre part ?
Mais non, mais je le redis, depuis mars dernier, on a 5 fois moins de passagers qui viennent en Europe, qui viennent notamment en France quand on compare à l'année précédente. On a 7 fois moins de personnes qui se transportent, se déplacent à l'intérieur de l'espace de l'Union européenne. Et nous avons, comme beaucoup, fait face à un défi absolument...
Oui, mais
absolument...
vous n'aviez pas fermé les frontières hors pays UE. C'est pour ça que je vous repose la question. Mais est-ce que par idéologie, vous avez refusé de fermer ces frontières alors que les voyageurs portant potentiellement ces variants venaient sur notre sol?
Nous avons fait... Au contraire, preuve de pragmatisme. Mais je crois, puisque...
Et pourquoi un an de retard,
alors ? Je le redis, contrôle strict des frontières depuis mars 2020.
Mais pourquoi vous ne l'avez pas fermé les frontières hors pays UE depuis un an ?
Nous avons contrôlé, nous avons encore renforcé avec les tests PCR, nous renforçons encore...
Mais vous ne les avez pas fermés, monsieur le ministre.
Oui, nous n'avons pas fermé. Vous savez, par ailleurs, c'est peut-être bon de le savoir, mais quand vous fermez intégralement les frontières, vous fermez aussi les flux de marchandises. Vous savez, par exemple, que pour le fret aérien, s'agissant des dom-tom, par exemple, vous avez la moitié du fret qui passe par la voie aérienne pour aller dans les dom-tom. Et c'est d'ailleurs absolument vrai aussi dans l'espace aérien pour les transports de marchandises. Nous avons toujours posé ces exceptions-là. Et donc, je pense que pour les partisans du tout frontiérisme...
Mais la question n'est pas là. Si on se demande ce matin pourquoi il a fallu 12 mois, tout simplement, pour le faire.
Mais je vous répète, je veux vraiment être clair, depuis mars 2020... Il y a un contrôle strict aux frontières.
On ne parle pas de la même chose. Je parle des frontières.
Non, mais je parle des frontières hors de l'espace de l'Union européenne. Et donc, je le dis depuis mars 2020, contrôle strict. Qu'est-ce qui s'est passé depuis mars 2020? Nous avons encore renforcé il y a quelques mois maintenant avec l'obligation de tests PCR. Ça pouvait se faire avant, au départ. Ça s'est fait au départ et arrivé. Maintenant, c'est obligatoirement au départ du pays hors espace Schengen. Et puis, nous avons... depuis quelques jours, applicable depuis hier matin, poser le principe d'un motif impérieux, y compris pour les résidents français, qui fait que nous allons encore tarir les flux de circulation.
Donc vous avez d'ailleurs publié une liste de ces motifs Absolument. Impérieux, mais personne ne dit combien de temps vont durer ces mesures.
Vous savez que nous avons à la fois un texte de loi qui est actuellement en navette et qui propose la prolongation de l'état d'urgence, et que par ailleurs, scientifiquement, les mesures mettent toujours 2 à 3 semaines pour produire leurs effets utiles. Donc pour le mois de février, cette mesure existera, et puis comme toujours, il y aura une revue de l'efficacité, cette fois-ci aussi.
Donc elle court au moins national, un mois, cette
et
mesure.
De manière à voir si c'est efficace ou pas. Et oui, au moins pour le mois de février.
Alors Jean-Baptiste Djebari, tous les Français ou résidents français qui étaient en déplacement hors UE ces jours-ci, non, et n'auront aucun problème pour rentrer en France, vous pouvez le garantir,
absolument,
sans justifier de motifs précis.
Je crois qu'il faut le redire, tous les résidents français qui sont partis il y a quelques jours, notamment pour des motifs touristiques, et qui doivent rentrer, qui sont résidents en France, qui y habitent, qui y travaillent, qui ont leurs enfants à l'école, peuvent absolument rentrer. Ils doivent se mettre en relation avec leur compagnie aérienne, avec leur prestataire de voyage, de manière à bien vérifier les horaires. Mais oui, le principe, c'est qu'ils peuvent absolument rentrer pour reprendre une vie normale en France, dès lors qu'ils sont partis pour des motifs touristiques.
Alors, l'entrée en France depuis un pays de l'espace Schengen est donc conditionnée à un test PCR négatif, à l'exception, vous l'avez dit, des travailleurs transfrontaliers. Comment ça se passe très concrètement? Est-ce que des contrôles aléatoires vont monter en puissance?
Absolument, des contrôles aléatoires par la police aux frontières, par... d'ailleurs, je crois qu'il y avait un reportage très bien fait hier soir sur une des grandes chaînes de télé publique qui montrait qu'à la frontière de Menton, il y avait des tests aléatoires et que toute personne qui n'était pas munie à l'intérieur de l'espace de l'Union d'un test PCR ne pouvait pas accéder au territoire français. Et vous avez raison de rappeler les exemptions que nous avons posées pour la continuité économique de la vie du pays, à savoir les transports de marchandises, c'est-à-dire les transports routiers, qui font déjà beaucoup d'efforts depuis le début de cette crise, et évidemment les 350 000 travailleurs transfrontaliers qui chaque jour vont travailler parfois à quelques kilomètres et qui ne sont pas soumis à ces restrictions.
Alors ces tests PCR, c'est pour les pays de l'espace Schengen, mais pourquoi considérer nos départements d'outre-mer comme d'autres pays dans le monde? Pourquoi un test valable pour aller en Espagne serait moins valable pour se rendre aux Antilles, par exemple?
Alors, le sujet particulier des Outre-mer, vous le savez, c'est le sujet de la fragilité, parfois, des systèmes sanitaires. Et donc, depuis maintenant de nombreux mois, nous avons posé des cadres assez restrictifs de manière à protéger ces territoires d'Outre-mer. Nous le renforçons encore. À compter le mercredi prochain, donc le 2 de mémoire, il y aura des motifs impérieux pour se rendre dans les Outre-mer. Et nous sommes très vigilants sur 2 sujets. Je l'ai évoqué juste précédemment. Le fret, qui passe beaucoup, je l'ai dit, par les avions passagers pour les Outre-mer. Évidemment, les étudiants, nous avions déjà eu ce sujet à résoudre
Bien sûr,
au moment de la première crise.
Est-ce que vous ne devriez pas aussi surveiller un autre sujet, c'est-à-dire la tension, tout simplement, dans ces départements d'Outre-mer, car vous aggravez ainsi la situation du tourisme dont beaucoup vivent sur place?
Alors, c'est toujours la conciliation entre la protection médicale, sanitaire et les mesures de soutien économique dont bénéficie évidemment l'ensemble des acteurs économiques outre-mer. Je gère avec Bruno Le Maire le sujet des compagnies aériennes outre-mer et c'est évident que nous apportons tant que faire se peut, toute l'aide utile de manière à se donner la perspective.
C'est-à-dire, très concrètement, c'est quoi l'aide utile ?
C'est-à-dire des prêts, c'est-à-dire des recapitalisations. Bon, c'est au cas par cas, parce qu'il n'y a pas une compagnie aérienne qui se ressemble dans nos territoires d'outre-mer, mais c'est évidemment une mobilisation très forte, parfois avec des volumes de plusieurs centaines de millions d'euros d'aide aux compagnies aériennes.
Est-ce que vous excluez, Jean-Baptiste Djebbari, de fermer les frontières, mais cette fois-ci avec les pays européens ?
Je ne parle pas
seulement du test. Hein. Fermer les frontières avec les pays européens.
Je dis fermer les frontières de façon absolument étanche. Ça pose le problème.
Une meilleure maîtrise alors.
Non, mais ça pose le problème très concret de la chaîne logistique, de cette pérennité. Vous savez que nous sommes dans un... Et d'ailleurs, depuis très longtemps, enfin, rappelez-vous, nos chaînes logistiques sont totalement interconnectées en Europe et dans le monde.
Très bien. Mais on a envie de comprendre ce matin, si malheureusement ça continue de flamber en Allemagne, qu'est-ce qui vous empêche de nous protéger en fermant la frontière ?
Je pense qu'en tout cas, qu'il y ait peut-être à un moment des motifs impérieux, c'est peut-être une discussion politique qu'il y aura, qui sera menée et menée au débat politique. Ce qui est sûr, c'est qu'un certain nombre, à mon sens, d'exemptions doivent être maintenues. Je pense notamment au transport routier, je l'ai redit, et je pense évidemment aux travailleurs transfrontaliers qui, vous le savez, dans leur réalité, eux, ne connaissent pas de frontières très concrètes puisqu'ils travaillent souvent à 30 km dans un autre pays de leur domicile.
Alors vous faites tout au gouvernement, à l'exécutif, dites-vous, Jean-Baptiste Djebbari, pour éviter un reconfinement. Donc je vous pose cette question ce matin. Est-ce que, pour éviter ce reconfinement et parmi la panoplie de mesures que vous pouvez acter pour l'éviter, est-ce qu'il y a l'interdiction de déplacements interrégionaux ? La fameuse règle des 100 km, est-ce qu'elle est sur la table, comme on dit ?
Bon, c'est encore trop tôt pour le dire. Vous savez que nous venons de prendre des mesures. Nous allons d'abord en évaluer les effets, en espérant qu'elles seront efficaces. Et vous savez que chaque semaine, chaque jour même, mais chaque semaine, il y a un Conseil de défense et de sécurité nationale qui vise à regarder les données épidémiologiques, à regarder l'efficacité des mesures.
Très bien, mais est-ce que vous excluez de limiter les déplacements interrégionaux pendant les vacances ?
Je crois que c'est l'année qu'on vient de passer nous a appris à être très humble en la matière. Donc, par principe, nous n'excluons rien. Mais en l'état, nous avons posé des mesures qui, aujourd'hui, sont effectives, qui, je l'espère, donneront des effets utiles. Et c'est dans ce cadre-là que nous verrons les mesures.
On a bien compris. Mais quand même, j'insiste sur ces déplacements interrégionaux. Pour vous, ça peut être l'une des mesures, si malheureusement, les mesures qui viennent d'être prises ne sont pas suffisantes et toujours dans la volonté d'éviter un reconfinement.
Nous l'avons déjà connu. Et donc, ça fait partie, en quelque sorte, de la boîte à outils que nous avons de manière.
Parce qu'elle vous paraît pertinente, Jean-Baptiste Djebbari ? Est-ce que cette règle des 100 km pourrait préserver pendant les vacances des régions les moins touchées ?
Quand j'observe ce que font les différents pays européens, certains l'appliquent, d'autres non. Encore une fois, je pense que soyons pragmatiques, regardons vraiment les effets utiles de cette première série de mesures importantes qui ont été annoncées par le Premier ministre vendredi, mis en place depuis dimanche matin. Et vous savez que voilà, la crise nous a appris à être. Comment dirais-je ? Souple en la matière et à regarder les données, les faits objectifs et de prendre des décisions sur
souplesse,
ces faits-là.
Alors souplesse, pragmatisme et peut-être stop à l'infantilisation, comme d'ailleurs cela a été dénoncé dans un livre, celui de Mathieu Laine qu'on a reçu ici même. Ce sont les mots du président « J'ai confiance en nous ». C'est le pari de la responsabilisation.
D'abord, c'est un défi collectif et nous ne pourrons y arriver qu'ensemble. Et donc oui, c'est tout la dualité, entre guillemets, ou la complémentarité entre la responsabilité et les règles. Et la confiance n'exclut évidemment jamais le contrôle, mais je pense que oui, une stratégie sanitaire gagnante, c'est celle qui est comprise, celle à laquelle on adhère, et celle pour laquelle on s'engage. Donc oui, le président a bien eu raison de rappeler ces mots de confiance à l'égard du peuple français.
Alors un horizon un peu plus lointain pour conclure cet entretien, Jean-Baptiste Djebbari, on pourra prendre bientôt un train de nuit, puisque c'est la résurrection des trains de nuit en France. On pourra dormir le soir dans un train à Paris pour se réveiller le matin à Nice.
Je l'ai fait il y a deux jours, c'est très agréable. Nous n'avons plus que deux lignes de train de nuit en France. Nous allons en rouvrir deux. Une en avril 2021, le Paris-Nice, et une fin d'année, le Paris-Tarbes, qui ira plus tard vers Rendaille. Et effectivement, l'ambition, c'est d'ouvrir 10 lignes d'ici à 2030. D'abord, ça correspond à une demande, notamment une demande des jeunes avec des petits prix. Et puis, ça correspond aussi à une excellence industrielle française. J'étais à Périgueux la semaine dernière pour voir à quel point il y avait de la fierté des cheminots de participer à ce grand renouveau des trains de nuit.
Et l'objectif, 10 lignes de train de nuit d'ici 2030.
Absolument.
Mathieu qui nous a rejoint, oui, un train de nuit. C'est agréable.
Vous avez pris des trains de nuit, vous, Sonia, ou pas ? J'en ai pris quelques-uns, on est très jeunes, mais de bons souvenirs.
Bons souvenirs.
On rencontre des gens.
Absolument, on rencontre des gens. Et moi, j'ai eu l'occasion de le reprendre il y a deux soirs, et ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Et puis, on a, je crois, tous des histoires
Racontez-nous
à raconter.
Racontez-nous un souvenir, Jean-Baptiste Djebbari, de train de nuit.
Je racontais justement au contrôleur d'une discussion. Alors, c'est un souvenir assez étonnant, mais je crois que c'était Paris-Perpignan il y a peut-être 15 ans maintenant, et j'avais passé la nuit avec un ex repris de justice qui m'expliquait un petit peu son itinéraire.
Dis donc, vous avez une vie
Écoutez, c'était comme ça.
C'est le hasard du train de nuit, justement.
Mais est-ce que pour conclure, c'est un projet collectif, tous les syndicats, tout le monde souscrit?
Je crois que c'est très fédérateur. C'est très fédérateur chez les cheminots. C'est très demandé et très populaire par les Français. Moi, vous savez, ça fait pas mal de bien parfois dans cette océan de mauvaises nouvelles que d'avoir des mesures populaires à porter. C'en est une. Et je constate que partout où je vais, c'est très demandé. Donc,
avec un objectif ambitieux, donc d'ici à 2030.
Absolument.
Merci Jean-Baptiste Gébaré d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
Et j'ajouterais que si les voyages forment la jeunesse, c'est au plus assez écologique quand même de voyager en train la nuit plutôt que l'avion. On aura l'occasion d'en reparler. Jean-Baptiste Gébaré, merci beaucoup. Sonia, merci mille fois. Il est 8h28, vous êtes sur Europe 1. À suivre, l'info, la météo, restez avec nous.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h31 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Jérôme Lacroix.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Aung San Suu Kyi exhorte la population de la Birmanie à ne pas accepter le coup d'État. La figure birmane et prix Nobel de la paix a été arrêtée cette nuit lors d'un coup de force des militaires.
Ils affirment que le scrutin législatif du mois de novembre dernier, largement remporté par le parti d'Aung San Suu Kyi, est entaché de fraude. Coup d'État qui montre à quel point le pouvoir partagé entre société civile et militaire est fragile.
Le pays s'était ouvert à la démocratie il y a à peine 10 ans sous l'impulsion d'Aung San Suu Kyi, après plus d'un demi-siècle de régime militaire autoritaire. Sébastien Le Belzic.
C'est l'échec d'une transition démocratique. Le partage du pouvoir entre les démocrates et les militaires qui ont conservé plusieurs ministères clés, dont ceux de l'intérieur et de la défense, n'a jamais fonctionné. Les militaires accusent le parti d'Aung San Suu Kyi d'avoir truqué les dernières élections en novembre 2020. Ce matin, ils ont pris la mairie de Rangoon, la plus grande ville du pays, avant de bloquer les accès à leur fief de Naypyidaw, la capitale. C'est là, dans cette ville construite de toutes pièces par l'armée en 2005, que l'ancien prix Nobel de la paix serait détenu. 10 ans tout juste après la fin de la dictature militaire, le général Min Aung Hlaing, commandant en chef de l'armée, prend le contrôle du pays.
Sébastien Le Belzic, correspondant d'Europe 1 en Asie, pluie de condamnations dans le monde entier à l'instant. L'Union européenne condamne fermement le coup d'État en Birmanie par la voix de Charles Michel, président du Conseil européen. L'ONU condamne également ce coup d'État. Les États-Unis menacent, je cite, d'agir si les arrestations ne sont pas abandonnées. Un homme de 70 ans est mort, noyé hier soir dans la commune de Berlaymont, près de Maubeuge, pris dans les eaux de la rivière Sambre suite aux intempéries. 25 départements sont placés en vigilance orange par Météo France dans le nord du pays, mais aussi dans le sud-ouest et le centre de la France.
Des contrôles renforcés pour tenter d'éviter un troisième confinement. Le gouvernement entend serrer la vis sur le respect du couvre-feu à partir de 18h. Les contrôles ont augmenté de 30% depuis samedi, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.
Renforcement des contrôles dans les aéroports, plus de contrôles aléatoires, affirme ce matin sur Europe 1 le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari, invité de Sonia Mabrouk à 8h15. Depuis hier, les frontières avec les pays hors Union européenne sont fermées. Plus de voyages sauf motif impérieux. Fermeté aussi de Bruno Le Maire envers les restaurants qui envisagerait d'ouvrir aujourd'hui. Certains appellent à braver l'interdiction. L'accès au fonds de solidarité sera suspendu un mois et de manière définitive en cas de récidive, Premier ministre de l'économie.
Côté vaccination, l'Union européenne a exigé et obtenu qu'AstraZeneca fournisse 30% de doses supplémentaires par rapport à la semaine dernière, soit 40 millions au total.
Et sur le front de l'épidémie, plus de 19 000 nouvelles contaminations enregistrées hier selon Santé publique France. Le nombre de personnes hospitalisées est en hausse, tout comme le nombre de malades en réanimation, plus de 3 100 patients. La politique, le projet de loi contre le séparatisme est examiné à partir de cet après-midi à l'Assemblée. Et en parallèle, le gouvernement planche sur un plan égalité des chances. Le Premier ministre Jean Castex était à Grigny dans l'Essonne vendredi pour un premier déplacement sur le sujet, érigé en objectif prioritaire par Emmanuel Macron avant la fin du quinquennat. Aurélie Herbemont.
Sur l'égalité des chances, pour l'instant, les Français ne voient rien. Ce constat d'un conseiller ministériel illustre l'enjeu pour le chef de l'État. Il y a bien eu le dédoublement des classes de CP, mais on verra les effets en 2030, reconnaît une ministre. Ils sont donc nombreux au gouvernement à phosphorer sur d'autres idées, des crèches au monde du travail, en passant par le logement, explique Matignon. La ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, suggère par exemple de revoir l'attribution des HLM pour favoriser la mixité sociale. La secrétaire d'État à la jeunesse, Sarah El Haïry, veut multiplier les initiatives de mentorat pour casser le plafond de verre. Au ministère de la fonction publique, on cherche à favoriser des recrutements qui ressemblent plus à la diversité de la France, pendant qu'Elisabeth Moreno, chargée de l'égalité, finalise la plateforme anti-discrimination. Emmanuel Macron veut s'exprimer sur le sujet ce mois-ci. Dans la majorité, on n'hésite pas à le dire, il y a une nécessité ratissé à gauche pour la présidentielle.
14 personnes étaient toujours hier soir en garde à vue à Marseille après la violente intrusion samedi au centre d'entraînement de l'OM de plusieurs centaines de supporters, mécontents des résultats récents. C'est un jour décisif pour l'avenir du foot français qui va savoir quels diffuseurs sont intéressés pour retransmettre à la télé les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. Les chaînes intéressées déposent aujourd'hui leur dossier.
La Ligue espère minimiser ses pertes financières après, vous le savez, le fiasco Mediapro qui avait promis plus d'un milliard d'euros annuels jusqu'en 2024 avant de se retirer, Julien Froment.
On ne s'attend pas à des miracles, mais entre les miracles et la catastrophe, il y a des marges. Cet acteur proche du dossier hésite entre résignation et pragmatisme au sujet des droits TV du foot français. Vu le contexte économique et sanitaire, peu de candidats sont attendus ce matin au siège de la Ligue de football professionnel. Des acteurs historiques comme beIN Sport pourraient répondre favorablement à l'appel d'offres, tout comme Canal+. Évincé en 2018, la chaîne cryptée va désormais jouer un rôle capital. Christophe Le Petit est économiste du sport.
Le facteur X de cet appel d'offres, c'est un petit peu Canal+. Quelle va être la position de Canal+? Est-ce que Canal, quand bien même ils ont attaqué l'appel d'offres, est-ce qu'ils viendront ou est-ce qu'ils ne viendront pas sur cet appel d'offres? Et puis on n'est pas à l'abri non plus que si Canal+ venait à perdre finalement l'appel d'offres, eh bien ils aillent au bout du contentieux. Donc on voit bien que Canal+ joue un jeu qui est un peu trouble, en tout cas qui pose question.
Et les questions sont nombreuses, des nouveaux entrants vont-ils s'inviter? Combien la Ligue va-t-elle récupérer? Elle devrait en tout cas communiquer assez rapidement car il y a urgence. En attendant, la chaîne Téléfoot du groupe Mediapro qui était censée s'arrêter hier soir, faute de solution, diffusera mercredi prochain la 23e journée de Ligue 1.
Et puis, il était sur Europe 1 hier soir, Florentino Pérez, le patron des footballeurs du Real Madrid, invité exceptionnel d'Europe 1 Sport. Il s'est exprimé sur Karim Benzema, buteur du Real Madrid et plus appelé en équipe de France depuis 2015. C'est un immense gâchis de se priver du meilleur attaquant du monde, a dit en ces termes Florentino Pérez.
Merci beaucoup Jérôme Lacroix. Voilà qui va relancer le débat, Benzema, Deschamps. Bon. On a remis une pièce dans la machine. Jérôme Lacroix, vous êtes sur Europe 1 avec Valérie Darmon. Nuages et pluies pour quasiment tout le monde, Valérie.
Eh oui, ce début de mois de février qui commence sous les nuages et sous les pluies qui sont liés au passage d'une nouvelle perturbation atlantique qui va traverser la plus grande partie de la France aujourd'hui, d'est en est. Résultat, ces 25 départements en alerte orange, crue inondation, comme hier le nord de la France et tout le sud-ouest, plus la Corrèze, et forte pluie pour tout le massif central. Donc du sud-ouest aux frontières de l'est à Rhône-Alpes, les pluies soutenues vont durer toute la journée. La limite de pluie-neige va remonter au-dessus de 1500 mètres en montagne. Le risque d'avalanche y est élevé. La pluie en plaine et la fonte des neiges aux altitudes moyennes vont donc maintenir un risque de crues et d'inondations très élevé près des Pyrénées et du Massif central. Et puis le vent souffle fort sur le midi toulousain, sur le littoral atlantique jusqu'à 100 km/h sur les Landes. Ailleurs, de la Bretagne au Pays de la Loire, du Poitou-Charente à la Normandie, bassin parisien, Grand Est, les pluies sont suivies d'un temps instable avec toujours des averses ici ou là. Les précipitations qui sont plus marquées sur la Bourgogne. Seul l'extrême nord va rester globalement au sec. Il fera 2 à 7 ce matin et 7 sur le nord Picardie, jusqu'à 10 en région parisienne ce matin et 11 seulement cet après-midi pour le bassin parisien.
Merci beaucoup Valérie Darmon. Vous restez bien sur Europe 1 à suivre notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed. Un Français sur trois souffre de sécheresse oculaire. Les astuces pour la réduire. Ensuite, notre planète, Fanny Agostini et Nicolas Canteloup, la revue de presse avant 9h bien sûr.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h39 sur Europe 1, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ce matin, nous allons parler de sécheresse oculaire. De plus en plus de Français en souffriraient. Comment l'expliquer?
Alors c'est vrai, vous l'avez dit, c'est un Français sur trois qui souffre de sécheresse oculaire d'après les ophtalmos. Alors avant de savoir pourquoi, il faut bien comprendre le rôle des larmes. Les larmes, on le sait, elles sont composées d'eau, de sel, hein. Quand on goûte les larmes, on se rend compte que c'est un peu salé, mais il y a aussi du sucre, des lipides, des anticorps, plein de bonnes choses qui nous permettent une triple fonction des larmes. La première, c'est que ça a un rôle pour évacuer notamment les corps étrangers. Vous le savez, lorsque vous avez une petite poussière, un cil coincé, vous allez vous mettre à pleurer. On sait qu'elles vont avoir un rôle de lubrification, notamment avec les anticorps qu'elles vont contenir pour justement permettre un milieu stérile et lutter contre les bactéries. Et puis on sait qu'il y a les larmes émotionnelles qui font qu'on va exprimer nos sentiments. Et d'ailleurs, dans ces larmes, il faut savoir que la composition est différente de celle, notamment lorsque vous avez les yeux qui pleurent avec un petit oignon, et bien à ce moment-là, dans les larmes émotionnelles, vous avez des hormones différentes. Et ces larmes permettraient justement d'évacuer notamment une douleur. Alors, pourquoi est-ce que tout d'un coup, on a de la sécheresse oculaire? Il y a deux explications. La première, c'est qu'on porte un masque. Et quand on porte le masque, eh bien, on le sait, on va expirer de l'air qui va remonter vers le haut et assécher les yeux. On le voit notamment chez ceux qui vont porter des lunettes en permanence, ils ont de la buée. Et puis le télétravail a aussi une part de responsabilité. On est plus à la maison, du coup dans des conditions différentes où l'humidité et la température est différente. À la maison, il fait plus chaud, l'humidité est moins bonne et donc par conséquent, on souffre de sécheresse oculaire.
Alors, est-ce qu'il y a des solutions qui existent ?
Oui, sinon cette chronique n'aurait pas d'intérêt. Alors, deux choses. La première...
Alerté déjà. Mais...
non, je n'ai rien à vous proposer, je suis désolé, à demain.
Merci docteur, à bientôt.
Non, alors, étant donné qu'on sera obligé de porter des masques et de continuer le télétravail, il va falloir s'adapter. Tout d'abord, il va falloir essayer d'ajuster correctement votre masque au niveau du nez pour limiter les fuites. Et puis, n'hésitez pas, sous contrôle évidemment de votre médecin, d'acheter des larmes artificielles pour hydrater ses yeux. Et puis, il faut faire des pauses.
Du sérum physiologique ?
C'est différent.
Non, c'est pas pareil.
Des larmes artificielles, voilà, c'est pour le ça sérum physiologique sert à rincer. Et ça, c'est vraiment des larmes artificielles qui existent à la pharmacie. Et puis, faire des pauses. Pourquoi ?
On peut en acheter même sans prescription. Je veux dire, ça existe. On va chez le pharmacien, larmes artificielles.
Exactement. Okay. Et puis, une dernière chose. Je dis qu'il fallait faire des pauses. Vous avez remarqué, le soir, quand on est fatigué, on a tendance à se frotter les yeux. C'est pas tellement parce qu'on est fatigué, c'est car lorsqu'on est fatigué, notre attention est augmentée et on cligne moins des yeux. Et en frottant les yeux, on va répartir les larmes justement sur l'œil pour éviter d'avoir un ulcère de cornée, avoir des yeux abîmés. Ça veut donc dire que quand on est derrière un écran, notre attention est tellement focalisée par cet écran qu'on cligne moins des yeux. Donc faites des pauses toutes les 20 minutes, pendant 20 secondes, vous regardez à 20 mètres, à 5-6 mètres, ça vous permet justement de lubrifier les yeux et d'avoir des yeux en meilleure santé.
La nutrition au programme de 100 rendez-vous avec Mélanie Gomez à 15h, Jimmy. On va parler des végétariens. Est-ce qu'ils sont carencés, les végétariens ?
Avec un nutritionniste hyper cool, le docteur Cocolle, avec lui on peut tout manger, vous allez voir, c'est génial.
Jimmy Mohamed à 15h tout à l'heure et à demain évidemment, Notre Santé, 8h42 sur Europe 1, on peut tout manger, moi ça me va, j'écouterai. Notre Planète avec Fanny Agostini, bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Aujourd'hui, la Chine est fière de lancer son premier marché d'émissions de carbone.
Oui, c'est à partir d'aujourd'hui, 1er février, la Chine rentre dans la course contre le carbone avec un marché spécial réservé aux pollueurs. Alors d'abord, un marché carbone, c'est quoi au juste ? C'est tout simplement un marché qui met un prix sur les émissions de gaz à effet de serre et qui a pour objectif de réduire la pollution. Mais historiquement, ce genre de marché a trop souvent manqué d'ambition pour être efficace, comme ce fut le cas pour le marché carbone de l'Union européenne, dont le prix du carbone a chuté. Voyons ce que cela va donner avec la Chine, qui se dote de son propre système d'échange de quotas d'émissions de CO2. Concrètement, ce sont 2200 entreprises du secteur énergétique qui représentent en volume deux fois plus que les émissions totales émises par l'Union européenne.
Comment ça fonctionne ce marché, Fanny ?
Alors c'est un peu comme la bourse, sauf que l'on n'échange pas des actions, mais des droits d'émission de carbone. Autrement dit, les entreprises vendent et achètent des droits de polluer. Alors normalement, l'idée est que le gouvernement fixe un plafonnement du volume total des émissions pour l'ensemble des entreprises concernées et puis sont distribués des quotas à chacune. Alors admettons qu'une entreprise pollue un peu moins que le seuil fixé, elle peut alors revendre ses droits d'émission qu'elle a en trop sur ce marché. L'objectif étant de réduire chaque année le plafond des droits d'émission pour que collectivement la pollution baisse. Alors le petit bémol qu'on peut adresser à la Chine, c'est que si les pouvoirs publics fixent un seuil global trop haut, il est possible que le prix du carbone baisse et donc exerce une pression insuffisante sur les gros pollueurs. Et c'est ce qui se passe.
Devons-nous nous attendre à un impact très fort sur la réduction des émissions de carbone chinoises ?
Ben voilà, à première vue, ce marché aura peu d'effet sur le niveau d'émission de CO2. Le problème, c'est que, contrairement à d'autres marchés carbone, celui de la Chine ne va justement pas fixer ce fameux plafonnement des émissions, mais plutôt fixer des seuils d'intensité carbone. C'est-à-dire que si l'entreprise émet trop de carbone pour son activité et n'est donc pas efficace en ratio production-émission de CO2, l'entreprise devra acheter des quotas. Ce que l'on peut noter, c'est que ce marché ne garantit pas encore la diminution de la pollution en valeur absolue, car théoriquement, une entreprise pourrait augmenter son efficacité carbone tout en produisant plus et donc en polluant plus. On peut dire que la Chine fait un premier pas, mais il va falloir faire mieux. Cela n'empêchera pas en tout cas l'ouverture de centrales à charbon dans le courant de l'année 2021. De nouvelles usines qui ne semblent pas inquiétées par la mesure.
Merci beaucoup Fanny Agostini, Notre Planète, tous les matins sur Europe 1. 8h45, dans quelques toutes petites secondes, la revue de presse avec Nicolas Canteloup et Julie, ils s'installent.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h47, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour les titres de l'actu.
Et oui, bonjour ma chère Julie, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. L'info du jour, c'est l'annonce surprise de Jean Castex vendredi. Finalement, pas de reconfinement. Et oui, en 2021, une bonne nouvelle, c'est de pouvoir continuer à rentrer chez soi avant 18h.
Voilà. Bah oui.
Et oui, c'est quelque part, chère Julie, notre dernière liberté. Et c'est vrai qu'on est tous contents, comme quoi on s'adapte vite à tout. On s'en tire bien. On avait tous peur d'un reconfinement, il faut bien l'avouer, un reconfinement et de 4 semaines de vacances scolaires coincées avec les enfants. Et au final, ils ferment juste les Leroy Merlin et les H&M. Donc on est sauvés. Allez, l'autre info, ce sont les supporters marseillais qui ont saccagé le centre d'entraînement de l'OM. Saccagé l'endroit où l'équipe s'entraîne pour potentiellement s'améliorer. C'est vrai que c'est pas du tout con comme idée. Non, franchement, Julie, s'il fallait saccager quelque chose, c'était les McDo marseillais pour que Dimitri Payet arrête. Hein, pour qu'il arrête les frites, qu'il arrête les sundaes, qu'il arrête les Big Mac et les nuggets aussi. Merde, ça y est, j'ai faim, Julie. Oh,
manquait plus que ça.
Et puis, pour les fans de Nicolas Barret, et ils sont nombreux,
Oui.
Les fans de Nicolas Barret, vous avez écouté sa chronique ce matin, certainement.
Mais oui.
Et Nicolas Barret a évoqué le célèbre F, le word en anglais,
oui,
F,
oui.
Les quatre lettres. Mais Nicolas Barret est un gentleman. Il ne prononce jamais ce genre de mots.
Oui, mais on parle dans ma chronique, non, c'est vrai, jamais. Après, je peux. Quand je vois la dette de la France, je me dis fuck, fucking virus. You're motherfucker Covid. You fuck the economy. You fuck the French PME. And you fuck the restaurant. Oui, c'est bon, Nicolas. C'est bon, on a compris le mot. Il peut le dire, voilà. On a compris que vous pouvez le dire. Allez, à vous, Julie.
Le F-word. Merci, Mathieu. Allez, on va faire un point sur ce confinement serré, desserré, avec couvre-feu renforcé mais hybride. Bonjour Olivier Véran.
Oui, bonjour, je tiens à le redire. Tout est sous contrôle.
Ah.
Tout est sous contrôle. Bonjour Monsieur Béliard, bonjour Madame Julie, bonjour à mon confrère Monsieur Mohamed et Monsieur Cabrol qui est actuellement, j'ai une pensée pour lui, je sais qu'il est actuellement sous l'eau.
Il est sous l'eau?
Oui, c'est le nouveau jingle de la météo, c'est la musique du Grand Bleu, oui, vous avez compris. Oui, c'est mon nouveau jingle. Je suis un peu le Jacques Mayol de la météo. Je vais tout vous dire, chers auditeurs. Je vais être en ligne avec vous depuis le Tarn et en fait, je suis en apnée. Moi qui déteste l'eau, voilà. En fait, mes lignes téléphoniques qui me permettent d'être en connexion avec Europe 1 sont totalement inondées. Et je vous rappelle que mes lignes téléphoniques sont sur les poteaux téléphoniques à 4 mètres de haut. C'est vous dire un petit peu le niveau de la crue. Je vous rappelle la décrue fin mars. Hein. Voilà, ou début mai. Hein, c'est mes prévisions, c'est jamais tout à fait précis. Hein.
Et
comme
courage.
Là, on est entre 4 mètres et 4 mètres 12. Hein, mais pas encore sûr.
Bon courage, Laurent Cabrol. Allez, reprenez Olivier Véran, on était avec vous.
Oui, merci. Bon courage à Laurent Cabrol. Je pense que chez lui aussi, tout n'est pas tout à fait sous contrôle. Mais écoutez, je comprends pourquoi. Non, je ne comprenais pas pourquoi vous bouchiez le nez, je comprends. Non, c'est mon odeur, pardonnez-moi, mais je passe mes journées en ce moment, vous le comprenez, à vérifier les égouts, à vérifier les eaux usées dans les égouts.
Chasse d'eau,
je pense. Oui, je pense qu'on va pouvoir analyser les eaux de Madame Martin. Ok, on va prendre ça dans un petit échantillon, Christiane.
Oh là,
merci.
Là,
pardon, oui, donc vous l'avez dit, c'est un confinement serré, desserré, avec couvre-feu renforcé mais hybride.
Et ça veut dire quoi concrètement?
Alors, tout est sous contrôle, mais là je dois vous avouer que je ne sais pas. Je vous avoue que même moi, Macron et Castex m'ont totalement paumé. Je suis un peu dans... Là, je suis un peu dans le Schwarz. Il n'y a qu'une certitude, on n'a plus de vaccin. Ça, c'est sûr. On n'a plus de vaccin, mais tout est sous contrôle.
Oui, bon.
Tout est sous contrôle.
Eh bien, justement, parlons de cette pénurie de vaccins. Comment on va faire, du coup?
Tout est sous contrôle.
Oui, bon, ben, ça va.
Alors, pour les vaccins, nous allons tirer au sort.
Hein?
Quels sont les magasins ouverts pendant les confinements? Les pharmacies et les bureaux de tabac. Nous lançons donc un jeu à gratter sur le modèle des morpions. Le Covid. Voilà, vous grattez Covid, et si vous avez 3 seringues alignées, vous pouvez vous faire vacciner.
Mais enfin, mais c'est nul!
C'est nul, il faut relativiser. Il faut relativiser. Je vous rappelle que c'est quand même déjà grâce à cette technique de grattage qu'on rénove le patrimoine français. Et ça ne vous a pas plus choqué que ça. Demandez à M. Bern. Alors laissez-nous faire, et je vous rappelle une chose, tout est sous contrôle.
Eh bien dites donc, on est rassurés.
Tout est sous
contrôle. Vraiment rassurés, merci Olivier Véran. Il a donc décidé de se donner encore une semaine de réflexion sur le confinement. Emmanuel Macron est notre invité ce matin. Bonjour Monsieur le Président.
Oui, bonjour à toutes et à tous.
Bon alors, on ne va pas se mentir, votre stratégie du j'hésite est quand même largement moquée. Hein.
Oui, mais vous êtes marrante, vous aussi. Mais c'est vous, les Français, qui n'êtes pas clair. Je vous demande donc maintenant de trancher, c'est tout. Soit vous êtes très malade, soit vous êtes plus malade du tout. Mais arrêtez d'être entre deux. Je passe pour un con, moi, derrière. Pire, je passe pour quatre sexes.
Bon, quel aveu. Alors, vous avez fait une métaphore automobile hein, en parlant du vaccin ARN. Vous avez dit, c'est une Tesla produite à la vitesse d'une Twingo. Expliquez-nous.
Bien, en fait, Pour trouver une image, je cherchais une voiture de prestige et une voiture moche pour illustrer ma métaphore. C'est aussi oui. simple que ça. La voiture de prestige française, bon, je ne l'ai pas trouvée, hein, bien évidemment, donc j'ai parlé de Tesla. Par contre, en voiture française pourrie, ça, j'avais l'embarras du choix. Il y avait la Twingo, la Kangoo, la Citroën Visa, la Renault 18 Break
merci,
aussi.
Merci. Allez, merci,
la
c'est
Safrane
bon, c'est
aussi, le... La Clio, la Logan de Monsieur Méliard.
Non, on a compris, Monsieur le Président.
La Velsatis aussi. Oh, c'est, non, c'est très très moche une Laguna. En fait, la Laguna, c'est bien. La Laguna,
merci, c'est Monsieur le Président, et bonne journée. Jean Castex a donc annoncé vendredi soir de nouvelles restrictions. La grosse annonce, c'est bien sûr la fermeture des centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés. Bonjour, Monsieur le Premier ministre.
Bonjour, Madame Chulé, Monsieur Péard. Bonjour à papy, à mamie. Papy qui ne peut plus passer son dimanche. À emmener mamie à Bricorama.
Alors, justement, ces fermetures des grandes zones commerciales, c'est vraiment efficace, à votre avis ?
Oui, je le pense. Je pense que c'est efficace. Chacun, vous savez, doit faire un effort. C'était irresponsable, disons-le, d'aller encore flâner à Leroy Merlin ou à Ikea le dimanche. Vous savez, depuis le début, nous cherchons pourquoi cette épidémie progresse. Eh bien, ça y est. Ça y est, les responsables, nous les connaissons. Ce sont tous ces, pardonnez-moi le mot, mais ce sont ces saligots qui vont dans les chiffis, dans les halos chaussures, les orotos. Je n'ai pas peur de dire les mots, bande de misérables, vous êtes des assassins.
Oh, mais n'exagérons rien, Monsieur le Premier ministre. Allons.
Attendez, à chaque fois que vous achetez un canapé en cuir de vachette chez Cuir Center, vous tuez un vieux. Il faut le savoir, c'est les ça, gens. Oui. Il faut profiter de votre antenne pour le dire. Il était urgent de fermer les Kiabi. D'ailleurs, je suis allé à Kiabi.
Ah, vous y êtes allé ?
Oui, je suis allé également à la halle aux vêtements et j'ai vu ce qu'ils vendaient.
Oui.
Je réfléchis donc à une fermeture, non pas provisoire, mais définitive. Également à une procédure judiciaire en espérant que Christina Cordula se constituera partie civile.
Eh ben, dis donc. Merci Jean Castex. Direction Marseille maintenant, où le centre d'entraînement de l'OM a été attaqué, vous le savez, par des supporters en colère.
Mon Dieu. Ah mon Dieu, Madame Julie, quel gâchis.
Monsieur Godin.
Non, mais quel gâchis. Et là, c'est Jean-Claude Godin, le supporter qui vous parle. Ce n'est pas Jean-Claude Godin, l'ancien maire de Marseille. Il faut que je prenne ma respiration. Que cette direction incompétente démissionne. Mais c'est une urgence. Sinon, je préviens. On reviendra tout péter.
Mais comment ça, on revient? Vous y étiez, vous, Jean-Claude Godin?
Ah ben évidemment, gros Gandhi ne sert le moindre des choses. Comment moi, Jean-Claude Godin, aurais-je pu rester de marbre devant les humiliations à répétition de ce club qui est ma chair, qui est bon sang? 70 ans, 60, oui, monsieur Béliard, oui, madame Fulopin, 70 ans que je le supporte. Et là, on enchaîne les défaites. Nous sommes, faut le dire, la risée de l'Europe. La direction est nulle. J'ai l'impression d'être un supporter de Sanofi.
Mais vous n'êtes pas allé commettre des actes illégaux quand même, monsieur Godin.
Vous savez, les actes illégaux, c'est, vu le temps que j'ai passé à la mairie de Marseille, je ne vous fais pas un dessin. En tout cas, je demande d'urgence la démission de Benoît Payan.
Benoît Payan, le maire de Marseille ? Et qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans ?
Ben, la ville doit aider le club. Moi, quand j'étais maire, nous avons gagné le championnat et la coupe de l'UFA. Benoît Payan, ses 4 défaites. Payan, démission.
C'est ça.
Merci Nicolas Canteloup. À demain, Julie. Philippe Cabrivière, Laurent Vassilion, Arnaud Demanche. Saluons les auteurs de Nicolas, bien sûr. Vous retrouvez la revue de presse sur Europe 1.fr. 8h58, Philippe Bordel est avec nous, Culture Média, la matinée continue sur Europe 1.
Mais évidemment, bonjour Mathieu, bonjour à toutes et tous. Dans notre info média du jour, on va parler du groupe Canal+, qui pourrait répondre dès ce matin à l'appel d'offres pour les droits télé du foot français. Et l'une de ces chaînes vient de battre un record d'audience. Quelle chaîne, quel record ? et quid du foot? On en parle avec le directeur des antennes et des programmes du groupe Canal+, Gérald Brice-Viret, qui a des annonces à faire. Au sommaire également, Julia Vignali, l'animatrice, mais pas pour la nouvelle saison du Meilleur Pâtissier, ça vient de se terminer avec un record, mais pour un nouveau numéro de son émission de dating, s'appelle Mon Admirateur Secret, c'est évidemment sur M6. Et puis la comédienne Marie Loubéry, elle est dans Je te promets, l'adaptation française très attendue de la série This Is Us, c'est ce soir sur TF1 et dans quelques minutes dans Culture Média.
Culture Média de 9h à 11h avec Philippe Vandel et toute son équipe. Pour ma part, je vous souhaite une très très belle journée. Je m'en vais. Je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.